Demain, vendredi, marquera donc la fin des opérations de la Sonde Rosetta, aventure commencée il y a 12 ans avec son point d'orgue en 2014 lors de sa mise en orbite autour de la comète Chury. Mais Rosetta est à bout de force, elle n'a plus l'énergie nécessaire pour continuer et alimenter ses panneaux solaires. Sa fin est déjà connue, elle va donc s'écraser tout en douceur pour un dernier baiser à sa comète chérie. Rosetta, pendant ses 12 années d'exploration, a récolté une extraordinaire moisson de données. C'est l'occasion de lui rendre hommage donc cet après-midi dans le dossier de la Tête au Carré pour comprendre ce qu'elle a apporté à la science. J'attends vos questions et vos messages sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Faut-il réanimer les espèces disparues de la surface de la planète? Question posée aujourd'hui à la une de la science. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu, oui, et les candidats sont nombreux. Mammouths, dodos, pigeons, migrateurs ou diables de Tasmanie. Et les avancées de la science permettraient de les faire renaître. Mais pour quelles bonnes raisons? On pose la question à la une de la science.
Et puis comme tous les jeudis, nous retrouverons la chronique santé polémique du docteur Dupin consacrée aujourd'hui aux chiens renifleurs de cancer. Stéphanie Texier réalise cette Tête au Carré préparée par Chantal Le Montagnier avec Mahmoud Mebarek.
Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Et la fin de la sonde Rosetta, son bilan scientifique dans le dossier de l'émission cet après-midi. Mes invités pour revenir sur l'épopée de cette sonde. Avec moi en studio, l'astrochimiste Hervé Cotin et le journaliste Philippe Hélarejos. Bonjour à tous les deux.
Bonjour, bonjour.
Et puis en duplex de Toulouse, l'ingénieur du CNES Philippe Godon. Bonjour à vous.
Bonjour.
Hervé Cotin, Philippe Hélarejos, bilan global de ces 12 années de la sonde Rosetta. Hervé Cotin.
Ah bah c'est un bilan extraordinaire. Ça a vraiment chamboulé complètement ce qu'on savait des comètes et ça remet en question beaucoup de choses concernant la formation du système solaire et aussi éventuellement l'apparition de la vie sur la Terre.
Même appréciation, Philippe ?
Oui, tout à fait. En plus, c'est l'exploration en profondeur d'une seule comète. On en avait déjà vu quelques-unes de près avec d'autres sondes, mais cette fois, on a quand même pu l'observer en profondeur pendant longtemps. 2 ans pour la sonde Rosetta, ouais. Et on a vu quand même les mécanismes qui se passaient, comment elle se transformait au fur et à mesure de son voyage autour du Soleil, ce qui est quand même pas inintéressant.
Philippe Godon, vous aurez un pincement au cœur demain vers 13h en voyant s'écraser votre enfant Rosetta sur la comète Chury.
Ah, c'est sûr, ça fait 15 ans personnellement que j'y travaille, une aventure de 20 ans,
ouais.
Et une phase de croisière de 10, 2 ans d'observation, enfin, et d'un seul coup l'arrêt. Donc ça va être difficile.
Ouais, on sent l'émotion dans votre voix, Philippe Godon, hein, même en duplex de Toulouse. Allez, on va se retrouver dans un instant pour revivre les grands moments de cette mission scientifique avec les messages des auditeurs. Et si l'extinction des mammouths était un jour une histoire ancienne?
Pendant plus d'un million d'années, les mammouths ont régné sur l'Amérique du Nord. Les plus grands mammifères de ce continent avaient résisté aux pires glaciations et aux pires sécheresses. Pourtant, il y a 13 000 ans, les mammouths ont disparu.
Et tous les éléments sont aujourd'hui entre les mains des scientifiques pour réussir à ramener à la vie des espèces anciennement ou récemment disparues. La revue Science consacre d'ailleurs cette semaine un dossier complet à cette expérience qui fait débat. Est-elle envisageable ou même défendable? Quelle espèce réanimer si jamais on se lançait dans l'aventure? Bonjour Régis De Bruyne.
Bonjour Mathieu.
Vous êtes en ligne avec nous, vous êtes paléogénéticien au Muséum National d'Histoire Naturelle. Est-ce que beaucoup de laboratoires dans le monde sont dans les starting blocks pour tenter de recréer des espèces disparues?
Alors dans les starting blocks, même plus pour certains, parce qu'il y en a certains déjà qui ont pris le train il y a quelques années. Ça a commencé, ces histoires de désextinction, au début des années 2010 finalement.
Vous parlez de désextinction, hein, c'est ça, j'ai bien entendu.
Oui,
hein.
On va dire que c'est le terme, alors je sais pas s'il est consacré, je pense qu'il a été consacré par personne, mais on va dire que les Américains appellent ça la de-extinction, mais on n'a pas d'équivalent en français, alors on les suit là-dessus. C'est pas très agréable comme terme, ça veut pas dire grand-chose, effectivement. En tout cas, ça a pris de l'ampleur, cette thématique, effectivement, avec la mise en avant de nouvelles techniques, notamment une technique dont vous parlez souvent sur votre antenne, ce qui a ce nom assez insupportable de CRISPR-Cas9,
ouais.
Cette espèce de bistouri moléculaire qui permet de venir travailler au niveau du génome de façon très fine et de venir substituer des gènes à d'autres gènes pour vraiment jouer aux apprentis sorciers au niveau du génome.
Ce sont les ciseaux moléculaires qui permettent de couper directement dans l'ADN, c'est ça en gros?
C'est ça exactement, et contrairement aux ciseaux qu'on utilisait jusqu'à présent, ces ciseaux-là, ils sont précis, c'est-à-dire qu'on peut les diriger de façon ciblée, alors que jusque-là, on avait des outils qui, certes, permettaient de couper, de réarranger des morceaux de génome, mais sans qu'on ait vraiment la maîtrise de ce qu'on faisait.
C'est vraiment le mammouth, le candidat numéro 1 à ce type d'expérience?
Oui, parce que c'est comme pour la production de son génome, d'une certaine façon, le mammouth, il sert de porte-étendard à tous ses travaux, en fait. Peut-être que c'est, pour les chercheurs qui sont intéressés, aussi un moyen plus pratique et de récupérer des moyens financiers que de commencer par une bestiole qui serait un peu moins mythique, peut-être. Donc oui, le mammouth, il est dans le débat aussi parce que c'est un des rares organismes pour lesquels on a beaucoup de données de génome complet, finalement, en dehors de l'espèce humaine. C'est sans doute la seule espèce qui est aussi bien connue parmi les espèces éteintes.
Et ben, concrètement, on a le génome du mammouth qui est connu depuis un an. On a cette technique CRISPR. Comment on fait pour recréer un mammouth à partir de ces deux éléments clés?
Et ben, comme on n'a pas de cellules de mammouth en état de réaliser un clonage tout bête et méchant, comme on a prétendu qu'on le ferait au début des années 2000, on n'a pas de cellules en état de fonctionner à l'intérieur des mammouths qu'on récupère. Par contre, on a pu récupérer des morceaux de leur génome et assembler ces morceaux par nos ordinateurs, ça nous permet de récupérer le génome en entier. Et ce qu'on a en parallèle, c'est qu'on a des éléphants d'aujourd'hui, et ces éléphants, ils ont un génome qui est aussi peu différent du génome du mammouth que notre génome humain est différent du génome des chimpanzés, c'est-à-dire très très peu différent. On a quelques dizaines de millions à centaines de millions de différences à l'échelle d'un génome, c'est pas grand-chose. Et donc il suffirait de cibler ces différences et puis de venir remplacer les signatures d'éléphants par des signatures connues désormais donc de mammouths dans leur génome pour espérer avoir produire une chimère en quelque sorte, parce que ce ne sera pas un véritable mammouth, ça sera un éléphant dont on aura modifié le génome pour le faire mimer celui du mammouth.
C'est un génome Frankenstein en fait.
C'est tout à fait ça, c'est-à-dire qu'on enlève des morceaux, on en remet d'autres et puis on essaie de voir ce que ça donne avec là aussi une petite part mystique, on n'a pas les éclairs pour ranimer tout ça, mais il y a une petite part de... On joue quand même un peu aux apprentis sorciers parce qu'on ne sait pas du tout ce que ça peut donner, c'est-à-dire quel va être le développement embryonnaire de cet organisme qui n'est ni un mammouth ni un éléphant, on n'en a aucune idée parce que le génome... Il définit certes ce que les gènes peuvent faire, mais c'est pas la seule information qui décide comment ces gènes doivent fonctionner.
Donc bientôt quasiment un éléphant finalement, Régis Desbrouilles. On va créer une nouvelle espèce, quoi.
Tout à fait, on aurait un mammouth synthétique. Ouais, c'est comme ça que ça fait ça, moi.
Quels sont les arguments qui sont mis en avant par ces équipes dans le monde qui sont prêtes à se lancer là maintenant?
Alors toutes ces équipes essaient un peu de nous flouer, c'est ça qui est sans doute le plus dommageable que la technique elle-même. La technique, bon moi je suis pas un grand défenseur, mais ce qui est plus dommageable c'est de nous faire croire qu'on va protéger la biodiversité avec ce genre de méthode de désextinction. Pourquoi est-ce que c'est complètement fallacieux? Parce que on le sait très bien, écologue, biologiste moléculaire, généticien, et que c'est pas en recréant à partir d'un génome connu un individu d'une espèce... qu'on pourra rétablir cette espèce en tant qu'entité naturelle. Il faudrait de la diversité génétique, et cette diversité génétique, eh ben, on ne pourra jamais la recréer de façon artificielle. Et donc, on ne pourra jamais finalement recréer facilement une espèce pérenne. Ce qu'on peut espérer recréer, c'est éventuellement des lignées à l'intérieur d'une espèce qui aurait disparu et qu'on pourrait aller mélanger avec d'autres lignées, pourquoi pas. Mais recréer un mammouth pour lui rendre la vie dans son milieu naturel, ça, à mon avis, c'est du domaine de la fantaisie.
On peut quand même trouver une bonne raison ou deux à mettre un jour au point cette technique ou, selon vous, pas du tout?
De toute façon, la technique en elle-même, elle existe. En fait, il s'agit juste d'utiliser la technique à un autre objectif que d'autres objectifs actuels qui sont peut-être plus louables sur la thérapie génique, sur d'autres modifications génétiques qui peuvent avoir un intérêt agroalimentaire, par exemple, pourquoi pas. Rendre la vie à une espèce éteinte, en soi, évidemment, ça serait un pas extrêmement favorable, mais les moyens financiers qu'il faudrait mettre à disposition, quand on les compare aux moyens financiers dont on dispose aujourd'hui pour essayer d'assurer la préservation des espèces modernes, c'est un peu ridicule. On se dit finalement, est-ce qu'on se trompe pas d'objectif, quoi? Est-ce qu'il faudrait pas mettre un peu plus de moyens sur ces espèces qui disparaissent au quotidien et pour lesquelles on fait clairement pas le travail nécessaire, ça, c'est sûr.
On pourrait essayer avec le dinosaure, Régis Desbrouilles, ou pas? On n'a pas assez d'ADN
alors,
disponible.
Alors, sur les dinosaures, il n'y a pas d'ADN au sens strict. Par contre, ce dont on dispose aujourd'hui dans la nature, ce sont des oiseaux. Or, les oiseaux sont les derniers dinosaures, entre guillemets. Les dinosaures n'ont jamais disparu, les oiseaux sont leurs derniers représentants, parce que simplement, ils ne ressemblent plus aux dinosaures qu'on connaît, nous, à travers les bouquins de notre enfance. Donc, ce qu'il faudrait faire dans ce cas-là, c'est effectivement leur rendre leur aspect dinosaure, c'est-à-dire leur rendre des dents, leur enlever des plumes, leur rendre des pattes avant, etc., etc. Et effectivement, il y a des tentatives qui ont été faites, là aussi, encore en Amérique du Nord, pour bloquer dans le développement des oiseaux les gènes qui les transforment en oiseaux, en fait, pour bloquer leur développement à un stade plus primitif, entre guillemets, qui les fait ressembler à des proto-dinosaures. En somme, ce qu'on sait faire aujourd'hui, c'est rendre des dents aux poules. Donc, les poules, un jour, ont eu des dents. Et voilà,
C'est déjà pas si mal. Merci beaucoup, Régis De Bruyne, pour cet éclairage. Et puis, Axel, c'est un dossier que vous avez repéré dans les pages de Science.
Oui, vous pouvez le lire, d'ailleurs, dans les pages de Science, sur le site dès aujourd'hui.
Merci beaucoup, Axel. À demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, notre écriture manuscrite change tout au long de notre vie. Et c'est une particularité qui intéresse les scientifiques. Si vous gardez des traces de vos écrits passés, vous pourrez sans doute constater que chaque année, votre écriture se modifie légèrement, alors que la science n'accorde pas beaucoup de crédit à l'analyse de la graphie pour traduire notre état psychologique et que la graphologie est considérée comme une pseudo-science, une équipe de chercheurs de Floride suggère que nos pleins et nos déliés pourraient être un bon indice de l'état de notre système nerveux et pourraient servir par exemple au dépistage de certaines maladies neurodégénératives comme Alzheimer ou Parkinson. Si vous souffrez de calculs rénaux, des chercheurs du Michigan vous proposent de faire des montagnes russes. C'est très sérieux, écoutez bien, cette information qui sonne comme un gag s'appuie sur les travaux de l'urologue David Wartinger, qui a présenté la preuve préliminaire de l'effet des manèges sur la descente naturelle des calculs rénaux. Après avoir remarqué des améliorations spectaculaires sur plusieurs de ses patients de retour d'une fête foraine, le scientifique a décidé de tester les effets des montagnes russes sur des reins imprimés en 3D et remplis d'urine. Eh bien, les résultats sont là et les calculs rénaux sont descendus. Alors, avant de courir jusqu'au parc d'attractions le plus proche de chez vous, attendez quand même que cette méthode soit validée, parce que les études supplémentaires, notamment sur la dangerosité, sont nécessaires et elles sont en cours. Et puis enfin, le milliardaire Elon Musk dévoile un plan faramineux pour coloniser Mars d'ici 10 ans. Connu pour ses projets innovants comme le train supersonique Hyperloop, Elon Musk a profité du 67e congrès aéronautique international pour présenter sa vision du voyage vers Mars, mais aussi de sa colonisation à partir de 2024. S'appuyant bien sur sa fusée réutilisable SpaceX, le projet manque cruellement de détails techniques pour être pris au sérieux par les spécialistes. On connaît tout de même le prix des premiers billets, 100 000 $. La vidéo digne d'Hollywood présenté au congrès est à voir sur la page Facebook de La Tête au Carré. Philippe Hénarejos, vous adorez ce projet vers Mars, hein?
Ah, j'adore tout ce qui est complètement utopique, ce qui est le cas avec ce projet. C'est un rêve fou. Je ne sais pas du tout si Elon Musk fait exprès de présenter quelque chose d'utopique.
À cette échelle de temps, en 2024.
Voilà, cette échelle de temps. Ou s'il y croit un peu lui-même, ce qui est possible, après tout, quand on a des milliards, c'est possible.
Ouais. Merci beaucoup, Philippe. On se retrouve dans un instant pour parler de la sonde Rosetta.
À tous de TDO, prêt pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain. Décollage.
Et c'était en 2004, décollage de la mission européenne Rosetta. Et donc demain, vendredi, fin de mission, 12 années de données scientifiques que nous allons commenter avec mes invités à la veille donc du dernier baiser de Rosetta sur la comète Chury. Pour en parler, Hervé Cottin, vous êtes astrochimiste au LISA, laboratoire interuniversitaire des systèmes atmosphériques. Philippe Godon, vous êtes en duplex de Toulouse, vous êtes ingénieur et chef de projet Rosetta pour le CNES. Et Philippe Hénarejos, vous êtes le rédacteur en chef de Ciel et Espace. Toutes les questions des auditeurs arrivent déjà sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Philippe Godon, pourquoi la fin programmée de Rosetta demain, 30 septembre, après 12 ans de bons et loyaux services ?
Bien, tout d'abord, on l'avait prolongé. Hein. La fin était prévue le 31 décembre 2015, juste après le passage au périhélie de la comète. Et comme la sonde se portait parfaitement bien, on a décidé de la prolonger.
C'est quoi le périhélie, s'il vous plaît ?
Le périhélie, c'est le passage de la comète au plus près du Soleil. Mm-hmm. Donc, on a décidé de continuer à suivre la comète lorsqu'elle repart dans le système solaire plus lointain. Là, on n'est pas si loin que ça de Jupiter, par exemple. Et donc, le 30 septembre, là, par contre, on aurait pu très bien l'arrêter le 15 octobre ou au mois de novembre. Mm-hmm. C'est nos collègues de l'ESA qui ont décidé de cette date précise.
Oui. Et pourquoi Rosetta ne peut pas revenir sur Terre, demande Patrick sur franceinter.fr.
Alors, ça aurait été une conception totalement différente, parce qu'il aurait fallu un autre module, il aurait fallu encore avoir à bord des ergols suffisants pour pouvoir ramener la sonde vers la Terre, mm-hmm. et donc c'était pas possible avec Rosetta. En 1993, lorsqu'on a conçu la mission Rosetta, il était prévu un retour sur Terre qui a été abandonné quand nos collègues de la NASA ont abandonné leur partenariat avec nous.
Oui. Donc 1993-2004, c'est le temps nécessaire pour faire partir une sonde dans l'espace. C'est peu de temps finalement, non, Philippe Godon ?
Bien, il faut pas mal de temps, en effet, parce que quand on fabrique une sonde, c'est une sonde sur mesure. Mmh. On peut même pas la réutiliser pour aller faire quelque chose d'autre. Elle a vraiment été faite pour explorer la comète Chury. Et donc, on part d'une page blanche, mmh. en 1995. 1997, on a fait les plans et on commence à construire les morceaux. 2000, on a intégré les premiers modèles. 2002, on a intégré le modèle de vol, celui qu'on va mettre dans la fusée et qui va partir dans l'espace.
Voilà, deux ans plus tard en
l'occurrence. Tout ça, il faut beaucoup d'essais pour pouvoir arriver à faire une sonde qui fonctionne parfaitement après.
Ouais. Hervé Cottin, une mort très lyrique, hein, annoncée par l'ESA, donc qui a opté pour une fin spectaculaire en nous parlant d'un dernier baiser sur la comète Chury, parce que d'habitude, les sondes, elles partent mourir où ? Dans l'immensité du cosmos ?
Alors, ça dépend des cas de figure. Il y a certains exemples célèbres, par exemple de Galiléo, qui est resté en orbite plusieurs années autour de Jupiter, et puis qui a terminé sa carrière en plongeant à la surface de Jupiter. Ça sera le cas aussi de la sonde Cassini, dans un peu moins d'un an maintenant. Cassini va faire un survol spectaculaire des anneaux et va à nouveau se projeter, être projeté vers l'intérieur des planètes géantes. Mais les sondes Voyager, elles continuent leur chemin vers les confins du système solaire.
Donc, voire même au-delà de notre système solaire.
Oui, hein, oui, hein. Tout dépend de ce qu'on appelle la fin du système solaire aussi. Ouais. Ça dépend vraiment. Et puis sur Mars, il y a certains rovers qui sont tombés en panne ou qui sont à l'arrêt et qui restent là. Ça dépend aussi du type d'objet. C'est-à-dire que Galiléo, on a choisi de la cracher sur Jupiter. Et c'est décomposé dans l'atmosphère hyper dense de Jupiter parce qu'on voulait surtout pas qu'elle tombe, par exemple, sur Europe. Oui. Parce que la sonde n'a pas été décontaminée suffisamment pour ne pas risquer de contaminer Europe
ou
un jour,
choses,
on espère,
on a des choses intéressantes
chercher
à faire.
Des choses intéressantes.
Et des traces de vie en particulier, on en parlait il n'y a pas si longtemps. Philippe hein.
Oui, et j'ajouterais qu'il y a une autre sonde américaine qui a connu le destin de Rosetta. C'était la sonde NIR, qui était une petite sonde qui avait été envoyée autour d'un astéroïde qui s'appelait Eros. C'est un astéroïde géocroiseur ou qui s'approche régulièrement de la Terre. Et à la fin de la mission, les Américains ont décidé de faire ce qu'ils appellent un crash contrôlé, c'est ce dont on parle pour Rosetta, c'est-à-dire qu'on va se poser en douceur, en relative, mais comme l'engin n'est pas conçu pour se poser, ça va quand même être un crash.
Ben oui.
Donc, il s'était posé à la surface d'Eros, ce qui a évalué quand même des vues très spectaculaires d'un astéroïde à 1 mètre, avant que la transmission s'arrête.
Ouais. Hervé Cotin, Sylvie demande à quelle vitesse, justement, Rosetta va-t-elle s'écraser sur la comète Chury. Donc, demain, ça va commencer quoi? À minuit, ça descend ce soir?
Elle est sur une trajectoire. Alors, depuis juillet et août, elle fait des ellipses où elle frôle. Et d'ailleurs, c'est ce qui lui a permis de voir Philae il y a quelques semaines. Elle frôle à quelques kilomètres le noyau et là, lundi, elle est partie sur une trajectoire qui l'amène à une vingtaine de kilomètres et cette nuit, un petit peu avant minuit, il va y avoir une dernière manœuvre qui va la propulser vers le noyau et elle va tomber sur le noyau et elle impactera environ 1 mètre par seconde. C'est pas très rapide, mais bon, toute l'électronique, tout le matériel, il y a 15 mètres de panneaux solaires de part et d'autre, c'est pas prévu pour résister.
Ouais, Philippe.
Oui, d'autant que la surface de la comète Juryomov-Gerasimenko, comme on a pu s'apercevoir depuis 2 ans, c'est pas aussi plat qu'une piste d'aviation.
C'est ça.
Il y a des rochers partout. Même si la zone choisie est un peu plus plate, quand même, il est évident que ces panneaux solaires de 15 mètres chacun, c'est énorme. On a des gros panneaux solaires parce qu'on est loin du soleil. Il fallait ces panneaux-là pour avoir de l'énergie. Dès que la sonde va être à quelques mètres, ils vont commencer à toucher, ils vont se casser parce qu'ils sont très fragiles.
Ouais. Philippe Godon, justement. À quelle distance Rosetta se trouve-t-elle de la Terre là actuellement et à quelle distance également du Soleil hein?
700 millions de kilomètres de la Terre et environ 600 millions du Soleil, un petit peu plus.
Ouais, et on a une idée du nombre de kilomètres.
Donc ça fait 40 minutes en temps de transmission entre la Terre et la comète.
Voilà, c'est le temps nécessaire
demain,
pour...
Demain, 13h20, on aura le dernier signal, mais il aura été émis sur la comète à 12h40.
Ouais. Alors c'est ça, qu'est-ce qui va se passer finalement dans ces dernières minutes, Hervé Cotin, de descente avant le véritable crash?
Alors ce choix de se rapprocher...
On va faire de la science jusqu'au bout.
C'est ça, c'est de la science jusqu'au bout, parce que c'est une extraordinaire mission scientifique. Et là, l'idée c'est de se poser dans un site qui est juste à côté de sorte de gouffre. Et l'idée c'est de prendre des photos vraiment en gros plan de ces gouffres en s'en approchant au plus près parce qu'on en fait un gouffre c'est un trou dans le noyau et en fait on voit l'intérieur du noyau et on s'est rendu compte déjà depuis l'orbite que les parois de ces gouffres sont constituées d'une espèce de texture qui fait penser que la comète pourrait être un espèce d'agrégat de boules de quelques mètres de diamètre et ça pourrait être en fait les briques élémentaires des comètes donc on a la comète et on va essayer de voir ces briques élémentaires. Et en plus, il y a un autre, et donc ça c'est la caméra Osiris qui réalisera ces derniers clichés. Et tous les autres certains instruments vont encore fonctionner. Et un autre instrument qui mesure la phase gazeuse, pareil, jusqu'au tout dernier mètre, va essayer de détecter des nouvelles molécules encore. On en a détecté des quantités extraordinaires, des grosses, des petites, des gazeuses, des solides. Mais là, on va renifler les dernières émanations juste à la surface où on pense qu'elles seront bien plus concentrées. Et donc, on espère trouver des nouvelles molécules. Et qui dit nouvelles molécules, ça va être à nouveau des clés de compréhension des mécanismes qu'on conduit à la formation des comètes.
Donc Philippe Godon, cette phase d'approche avant le crash demain sur la comète est très intéressante scientifiquement apparemment. Hein.
Ah, tout à fait. Il a été choisi à cet endroit pour ça. L'idée initiale était plutôt d'aller près de rejoindre Philae. Mais Philae se trouve dans une zone qui a très peu dégazé, très, très inactive si on peut dire. Et il est beaucoup plus intéressant de se diriger là vers cette zone sur Mat. Qu'on appelle Deir el-Médina et qui a émis des jets de gaz et de poussière extrêmement importants. Donc on espère voir une surface très fraîche de la comète.
Philippe Hénarejos.
Oui, c'est exact, c'est pas pris au hasard du tout. Et Philippe Godon parlait de dégazage. Ces fameux gouffres dont on parlait à l'instant, quand ils sont observés par les caméras scientifiques, on s'est aperçu à plusieurs reprises qu'ils étaient l'origine de jets de la comète. Vous savez, la comète, c'est pas simplement un corps rocheux et glacé. Il y a cette glace qui s'évapore à la lumière du soleil, ce qui fait son atmosphère, sa chevelure. Et bien ça, c'est alimenté surtout par des jets, et ces jets sortent de ces gouffres qui font à peu près 130 mètres de diamètre pour une soixantaine de mètres de profondeur. Donc l'intérêt, c'est effectivement de voir dedans, de renifler éventuellement ce qui en sort au plus près. Donc c'est vraiment pas fait au hasard. Ouais. Là, on espère avoir de belles images et de bonnes données.
Ouais. Jusqu'aux dernières secondes. Dernière minute.
Oui, c'est ça. On espère avoir les dernières images à environ 10-20 mètres de la surface, qui veut dire 10-20 secondes avant l'impact.
Oui. Pourquoi on coupe un petit peu avant, Philippe Godon, justement, avant l'atterrissage, le crash plutôt?
En fait, il y a une régularité de prise d'image. Et en plus, l'instrument Osiris va se défocaliser. C'est-à-dire qu'après, on sera trop près.
Oui.
Mais sans quoi la sonde va continuer à fonctionner jusque vraiment au moment où elle va toucher le sol de la comète.
Allez, le dernier baiser de la sonde Rosetta, c'est le dossier de l'émission cet après-midi. Et vos questions sur franceinter.fr.
Un petit poisson, un petit oiseau s'aimait d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau? Un petit poisson, un petit oiseau s'aimait d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est là-haut? Quand on est là-haut, perdu au creux des nuages, on regarde en bas pour voir son amour qui nage. Et l'on voudrait bien changer au cours du voyage ses ailes en nageoire, les arbres en plongeoire, le ciel en baignoire. Un petit poisson, un petit oiseau s'aimait d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est là-haut? Un petit poisson, un petit oiseau s'aimait d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau? Quand on est dans l'eau, on veut que vienne la rage qui apporterait du ciel, il n'y a plus qu'un message qui pourrait d'un coup changer au cours du voyage des plumes en écailles, des ailes en chandail et des algues en paille. Un petit poisson, un petit oiseau s'aimait d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau? Un petit poisson, un petit oiseau s'aimait d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est là-haut? Un petit poisson, un petit oiseau s'aimait d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau?
Et Juliette Gréco sur France Inter avec un petit poisson et un petit oiseau.
La tête. Je ne crois pas que je sois spécialement impatient, Canon, mais je voudrais savoir combien nous prendra un tel voyage.
Carré.
Seulement 2543 ans, 4 mois et 10 jours. Je sais que vous aimez l'exactitude. Je vous en remercie.
Sur France Inter.
Voilà, c'est un plus petit voyage pour Rosetta, mais quand même 12 années donc de service avant le crash demain. Hervé Cottin, Philippe Godon et Philippe Hénarejos pour nous en parler, pour répondre à toutes vos questions qui sont nombreuses. Rosetta a été conçue, dit Nicolas, avec des technologies des années 90, voire avant. Est-ce qu'une sonde aujourd'hui serait beaucoup plus performante pour une éventuelle nouvelle exploration d'une comète? Et est-ce qu'un nouveau projet est en cours? Qui veut répondre? Hervé Cottin?
Alors, c'est clair que on a parlé de la sélection de la mission dans les années 90 et il a fallu aussi sélectionner les instruments qui ont été construits en compétition. Il y a une compétition, c'était les meilleurs instruments, mais c'était basé sur des technologies qu'on était capable de transposer dans l'espace.
Oui.
Donc, les instruments qui analysent la comète à l'heure actuelle sont basés sur les meilleurs instruments de laboratoire, je dirais, des années 80, transposés en instruments spatial dans les années 90 et qui font les analyses maintenant. Et maintenant, dans les laboratoires, moi je participe à un projet pour construire des nouveaux instruments qui sont basés sur ce qui se fait de mieux maintenant. et qu'on espère un jour voir voler dans des missions similaires à Rosetta. Alors, il faut voir que Rosetta, c'était une ambition considérable par rapport à ce qu'on fait parfois maintenant, qui sont des missions plus simples, plus rapides à développer. Mais oui, maintenant, on travaille sur des missions qui voleront peut-être dans 20 ans et qui donneront peut-être leur retour scientifique dans 30 ans. Et on ferait certainement beaucoup mieux. Quoique ça va être difficile, le principe va être difficile à égaler, mais on aurait des instruments modernes, on aurait plus de données, ça c'est certain.
Philippe Godon, pour répondre à cette même question.
Oui, eh bien, c'est sûr qu'on ferait peut-être 10 ou 100 fois mieux pour les instruments scientifiques, mais je pense que si on fait une prochaine mission, là, on ira chercher un morceau de 1 kilo de la surface de la comète et on essaiera de le ramener sur Terre.
Eh oui.
Parce qu'il n'y a rien de tel que faire une analyse sur place ici. On a des moyens qui sont très supérieurs à ceux qu'on pourra toujours mettre dans une sonde spatiale.
Quelle difficulté, justement, Philippe Godon, pour rapporter un échantillon de comète sur Terre aujourd'hui ? C'est des difficultés qui sont liées tout simplement au financement d'une telle mission ?
Oui, c'est vrai que techniquement, on saurait faire et qu'il nous faudra peut-être trouver 2 milliards d'euros pour arriver à faire cette mission. Peut-être moins, j'espère, mais elle n'est pas encore là. Enfin, en tout cas, on en parle, mais rien n'est décidé.
Ouais, Philippe Hénarejo, ça ne se trouve pas sous la botte d'un cheval, 2 milliards d'euros aujourd'hui.
Non, c'est une mission ambitieuse. Il y a déjà eu des missions de retour d'échantillons d'astéroïdes, mais c'était quelques grammes ou microgrammes. Là, en plus, si on veut aller ramener un morceau de comète, il faudra peut-être passer au frigo, parce que s'il y a de la glace, je sais pas, mais il y a sans doute des choses à développer en plus de ce qu'on sait faire aujourd'hui. C'est sûr que ça sera cher.
Ouais. Est-ce qu'on peut craindre une contamination quelconque si on rapporte un morceau de comète sur Terre, Hervé Cottin?
Alors, il y aura forcément des mesures de précaution extrêmes, mais qui seront en fait dédié à protéger l'échantillon plutôt qu'à nous protéger de l'échantillon. Parce que typiquement, ce qui m'intéresse le plus, ça va être les molécules basées sur le carbone, la matière organique. Et il y en a partout sur Terre, il y en a partout dans les laboratoires. Et on s'est rendu compte, dans les années 2000, la NASA a fait un survol très bref d'une comète et a rapporté quelques fractions de milligrammes de poussière cométaire. Mmh. Et elle l'a ramenée sur Terre. Pour la partie minérale, il y a eu beaucoup d'avancées. Mais pour la partie organique, molécules basées sur le carbone, en fait, ça a été très très compliqué parce qu'on s'est rendu compte que le simple fait de capturer des grains de poussière, déjà les contaminait avec de la matière terrestre. On arrive très difficilement sur Terre à construire des choses qui soient complètement dénuées de contamination. Donc, oui, on prendra des précautions extrêmes, mais pour protéger l'échantillon qui aura une valeur extraordinaire plutôt que nous protéger. Enfin, ce ne sera pas très compliqué de nous protéger, nous.
Pour évoquer les instruments présents justement sur la sonde Rosetta, voici un extrait du documentaire « L'aventure Rosetta ».
Une mission de ce genre, c'est le travail d'une vie. L'assemblage de l'instrument dure 5 ans et la sonde voyage 10 ans. Puis en 2 heures à peine, on découvre si les 15 dernières années n'ont servi à rien ou si c'est une réussite. Donc oui, il est tout à fait possible qu'après 15 ans, on constate « Bon ben voilà, ça ne marche pas, on n'a rien ».
Fred Gussman est le responsable de l'outil COSAC. Il a lui-même conçu ces fours miniatures destinés à chauffer les échantillons de comètes pour analyser les gaz résiduels et espérer identifier la trace de molécules organiques, peut-être des acides aminés, les briques élémentaires du vivant.
Si on pouvait constater que sur la comète, il y a des molécules qui se mettraient à germer si elles tombaient au bon endroit, un endroit où il y a de l'eau, où il y a une atmosphère, ce serait génial, non ?
Voilà, COSAC, l'un des instruments. Hervé Cottin, vous avez travaillé sur quel instrument, vous en particulier ?
Alors moi, j'ai travaillé sur un instrument qui s'appelle COSIMA, qui est éteint depuis hier. Là, on a reçu
le 28 septembre, c'est ça ?
Et donc cet instrument collectait des petites particules de poussière, donc des petits morceaux de noyau qui étaient éjectés du noyau, qui sont collectés dans la sonde Rosetta. On peut prendre des photos et ensuite on va analyser la composition de ces particules. Et ça a marché parfaitement jusqu'à l'interruption de cet instrument hier parce que de toute façon, comme il faut, la séquence d'analyse dure en général plusieurs jours ou plusieurs semaines. Il n'y avait plus de raison de continuer à le maintenir en fonctionnement.
Donc ce sont ces grains de comète au fond que vous avez photographiés qui sont en cours d'analyse
Qu'on a reçu les derniers spectres cette nuit.
Ouais.
Voilà, mais on en a eu pendant 2 ans, on a des milliers et des milliers de spectres.
Donc maintenant c'est le travail.
Alors on a déjà débroussaillé, le travail a commencé, on a des résultats très intéressants, mais oui, ça va durer, je pense, encore des années pour bien maîtriser toute la complexité de ce qu'on observe.
Philippe Godon, on entendait dans l'extrait de ce documentaire la voix de ce scientifique disant voilà, c'est le travail d'une vie et en 2 heures, on sait si 14 années consacrées voire plus sont réussies ou pas. C'est exactement ce que vous vivez?
Oui, tout à fait. Surtout pour tous les instruments qui étaient installés sur Philae. La plupart ont fonctionné quelques heures sur une durée totale de 60 heures. Donc il fallait à tout prix optimiser ces fonctionnements. Mm-hmm. Tous les instruments ne pouvaient pas fonctionner en même temps. Et je pense que malgré les rebonds et le fait qu'on ne soit pas arrivé exactement dans la position et à l'endroit prévu, on a réussi. Il y a 8 instruments sur 10 qui ont donné de très bonnes données.
Oui. Alors Philippe Pénarejo, justement, ces fameux rebonds, c'est un peu l'échec quand même de Philae et de la mission.
C'est sûr que ces rebonds, c'est le signe que quelque chose n'a pas fonctionné. Alors, initialement, Philae devait arriver à une certaine vitesse relativement faible sur une zone déterminée de la comète. On savait que la comète ne l'attirait pas du tout. Il fallait s'y accrocher. Donc, il y avait un système de harpon qui devait accrocher Philae au sol qui n'a pas fonctionné. Il y avait en même temps un petit moteur dont on savait quelques heures avant qu'il ne fonctionnerait pas pour plaquer Philae contre la comète. C'est la raison de ce rebond. Alors, évidemment, ce sont des systèmes qui n'ont pas fonctionné. La faute en revient peut-être aussi un peu au report du lancement, parce qu'au moment où Rosetta devait être lancé, il y a une fusée Ariane 5 qui a échoué, donc il a fallu revoir ce qui se passait, donc ça a déporté le lancement de plusieurs mois, donc ces systèmes-là sont restés, c'est de la pyrotechnie, c'est des choses comme ça qui, moins ils restent à bord et dans le froid de l'espace, mieux c'est. On a dû du coup changer de comète, on devait initialement viser la comète Virtanen en moins de temps que ça, donc du coup la croisière a été rallongée, donc vous avez le délai de un rallongement de la croisière. Donc tout ça fait que les matériaux vieillissent, ils sont soumis au rigueur de l'espace. Donc pour toutes ces raisons, ça n'a pas marché. Et au lieu d'avoir un Philae sagement posé qui donne les premières informations qu'il récolte comme ça au cours des premières heures sur ses batteries, comme il l'a fait, et puis qui enchaîne avec une autre phase où il se recharge et où pendant peut-être des semaines il allait voir l'évolution au sol de la comète, nous envoyer des paysages, nous envoyer des choses changeantes, refaire d'autres prélèvements. Ça n'a pas eu lieu, donc c'est un peu l'échec quand même de la mission. Mais encore une fois, c'est une entreprise très difficile, il y a eu des aléas, l'espace c'est très dur, c'est impitoyable. Voilà, c'est la vie.
Larry demande, est-ce que l'impact sur la comète demain, donc lors de son crash, pourrait modifier l'orbite de cette dernière? Hervé Cottin.
Non, sincèrement, c'est quand même la masse et la vitesse de Rosetta comparée à la masse et la vitesse de la comète, ça va être infinitésimal. Donc non, il n'y aura pas de changement de trajectoire de la comète.
Allez, suite de notre discussion dans un instant et toujours vos messages sur le site de la Tête au Carré. She's a flame in the fire. Woman, woman. She's a lover and a fighter and a king and a mother. Woman, woman. Turn a boy to a man, build a whole empire. That woman got a story with a halo standing in her glory. Woman, woman. Take a trip to the moon on the curves of her body. Woman, woman. One hand on a pussy and the other on a Harley. Woman. Woman, she could dance all night, make your coffee in the morning. That woman, she from Venus. Don't play around, baby, she a genius. God gave you the answer when he gave you the woman. Woman, jack of all trades, put the money on the counter. Woman, woman,
She's the balls and the brains. No, don't you ever doubt her. Woman, woman, got a finger on the trigger and she coming for the power. That woman, she's a dangerous. So holy like she's covered in that angel dust.
Diana Gordon, Woman sur France Inter. Fin de mission pour Rosetta, donc ce sera demain. Et pour en parler, Hervé Cottin, Philippe Godon et Philippe Hénarez-Josse. Philippe, d'ailleurs, on peut signaler que le public pourra vivre aussi ce dernier baiser de, oui, de Rosetta à la Cité des Sciences et à la Cité de l'Espace.
Oui, hein. Si vous vous souvenez quand même de l'atterrissage de Philae, qui était quand même spectaculaire avec ses rebonds, avec ses heures d'attente où on ne savait pas où il était, ce qui se passait. Il y aura certainement peut-être des surprises avec Rosetta qui va s'approcher, qui va passer...
Ouais. Donc on aura des images demain dans les deux cités.
Bah oui, a priori, il doit y avoir les images de la caméra de navigation au moins. Je ne sais pas ce qu'il en est pour la caméra scientifique Osiris, si elles seront diffusées en direct, mais j'imagine que oui, parce que il n'est pas question qu'elle reste à bord pour être diffusée plus tard, puisqu'il n'y a pas de plus tard. Donc j'imagine qu'on les aura aussi. Et donc il y a au moins deux endroits en France qui sont la Cité des Sciences à Paris et la Cité de l'Espace à Toulouse, où le public est convié dès le matin, dès 10h30 aux heures, avec des scientifiques et des experts.
Et en duplex de l'Allemagne, où se passe le poste de commandement. Philippe Godon, des informations complémentaires?
Oui, en fait, il y a aussi une vidéotransmission qui commence sur le net à 10h30 et qui devrait se terminer vers 14h. Oui. Donc, on y verra les scientifiques qui sont à la Cité des Sciences exposer leurs résultats. On va voir aussi la dernière phase de la mission et dont les images d'Osiris, donc de la caméra la plus performante de Rosetta, et donc avec une vue de la comète et sûrement des gouffres là à une quinzaine de mètres d'altitude.
Ben justement, petit souvenir de ce 12 novembre 2014 où nous étions à la Cité des Sciences, Philippe, en compagnie entre autres de notre camarade André Braïc, disparu cette année. C'est une façon aussi encore de lui rendre hommage que de l'entendre nous parler justement de Rosetta et de Philae.
Si par hasard le sol était extrêmement rigide et si nous rebondissions trop fortement, eh bien on atteindrait très facilement la vitesse d'évasion. Donc il faut à la fois y aller avec douceur. C'est pas comme, vous savez, quand les Américains ont rencontré une comète, ils ont frappé, boum. Les Européens, eux, ils caressent. Donc nous caressons la comète, ce qui je trouve est une approche plus sympathique, surtout qu'on approche une dame comme la comète. Eh bien on la caresse doucement. On ne veut pas s'en éloigner et rebondir. On ne veut pas pénétrer à l'intérieur trop rapidement, sinon on n'aura plus rien. On veut rester dessus et observer ce qui se passe sur chaque milligramme de sa peau.
C'est d'un érotisme, Rosetta. C'est
pas
terrible.
C'est une caresse, c'est pas érotique.
Pas du tout. C'est juste présent. Si, c'est érotique, une caresse. Voilà, ce petit souvenir donc d'il y a deux ans, hein, Philippe. Alors, vous allez sur les sites de la Cité des Sciences et de la Cité de l'Espace si vous souhaitez vivre donc ce dernier baiser de Rosetta. Laurent nous dit ceci, pourquoi parler de Rosetta comme d'une personne dérive anthropomorphique plutôt que de lui rendre hommage à elle? Il vaudrait mieux rendre hommage aux équipes qui l'ont conçue, construite, puis suivie et faite fonctionner. Bye bye Rosetta, ou bye bye aux équipes citées précédemment. Que vont-elles devenir? C'est peut-être cela qui causait l'émotion de votre interlocuteur, Philippe Godon. Ce message est pour vous.
Oui, que vont-elles devenir? Il y a des équipes d'ingénieurs au Hermoc, à Darmstadt, à Toulouse, etc. Bien, ils ont déjà commencé à basculer sur d'autres missions. Il y en a déjà qui sont lancées, telles que Hayabusa, etc. Ou celles comme Curiosity et son rover. Donc nous travaillons, les mêmes personnes, si vous voulez, travaillent sur ces projets-là. Et puis il y en a d'autres qui vont créer les sondes du futur, quoi, qui sont pas encore décidées.
Comme Hervé Cottin, hein, comme il nous l'expliquait tout à l'heure. Michael demande pourquoi tous les noms attribués à ces expériences font référence à l'histoire, à la mythologie de l'Égypte ancienne.
Alors, c'est basé déjà sur le nom Rosetta, qui vient de la pierre de Rosette, qui est cette pierre que Champollion a utilisée pour décrypter les hiéroglyphes. Et donc, parce qu'on pense que, et on le voit, on le constate, mais on n'a pas fini de décrypter, mais que les comètes sont une clé pour comprendre l'origine du système solaire et peut-être aussi l'origine de la vie. Et donc, venant de là, Philae, Osiris, et même les régions sur le noyau de la comète, on a gardé cette inspiration égyptienne, de la mythologie égyptienne.
Virginie demande, les éléments qui ont été trouvés sur la composition de la comète, est-ce qu'ils constituent de grandes avancées pour la connaissance? Alors, le bilan scientifique, justement, Philippe, qu'est-ce que ça nous a appris? Est-ce qu'on en a beaucoup appris sur les comètes avec cette mission Rosetta?
Oui, on en a appris beaucoup. Je vais essayer de résumer quand même, parce que je ne suis pas un scientifique. Il y en a un plateau qui va pouvoir peut-être mieux répondre
que moi.
Vous
pouvez nous faire une synthèse globale.
Oui, une synthèse. Moi, ce que je retiens, c'est déjà la forme biscornue de cette comète. Ça nous parle sur les conditions dans lesquelles cette comète s'est formée. Peut-être elle a été cassée, peut-être elle s'est réagrégée. À quelle vitesse, à quelle distance du soleil, etc. Donc tout ça, c'est des questions sur l'origine de ces briques de planètes que sont les comètes. C'était il y a 4 milliards et demi d'années. Ensuite, on a quand même analysé la vapeur d'eau qui s'échappe de cette comète, parce qu'il y a une question scientifique qui est toujours en discussion, c'est d'où vient l'eau de la Terre, celle qui constitue nos océans, etc. Alors, il est probable qu'il y en ait eu initialement avec le matériau qui a créé la Terre, mais il est possible aussi qu'il y en ait eu, qui été apporté par d'autres corps. Et les autres corps, c'est quoi? C'est soit les astéroïdes, soit les comètes. Et là, je crois savoir que sur Rosetta, sur la comète Chury, on a mesuré que cette eau était différente de celle des océans terrestres. Donc c'est une réponse. En tout cas, cette comète n'aurait pas contribué à remplir les océans,
à ensemencer
en tout cas, la surface de la Terre. Ça ne veut pas dire que toutes les comètes... Vous voyez, le débat n'est pas fini.
C'est une question de Paul qui demandait si l'eau contenue dans le noyau a la même composition que celle de notre Terre, Hervé Cottin.
Pas exactement. Ouais. Pour certaines comètes, oui. Pour celle-ci en particulier, non. Donc ça complexifie encore le puzzle qu'on essayait de construire. En fait, on a c'est ça qui est passionnant, c'est que on s'attendait à poser une pièce à un endroit, et en fait, la pièce qu'on trouve et nous ouvre un champ de connaissances et d'investigations auxquelles on s'attendait pas, parce que c'est une valeur qui est de ce qu'on appelle le rapport deutérium sur hydrogène, qui est beaucoup plus élevé que ce qu'on avait jamais vu dans aucune comète. Donc c'est surprenant, mais c'est génial, parce que c'est des nouvelles questions, et nous scientifiques on adore les nouvelles questions.
La suite de la synthèse, Philippe,
et puis,
sur le bilan scientifique.
La fin de la synthèse, en tout cas pour ce que j'en sais, c'est, je crois, la découverte de composés complexes, mais là je pense que Hervé Cottin va en parler mieux que moi quand même.
Ah oui, alors on s'attendait à ce que les comètes soient un véritable zoo de molécules organiques, des petites, des grosses, des moyennes, de toutes les natures qu'on pouvait imaginer. Et on avait anticipé ça. Et dans la phase gazeuse, les instruments qui analysent le gaz, que ce soit sur Rosetta ou même sur Philae, les quelques mesures qui ont été faites, ont déjà montré, ont prouvé qu'il y avait déjà cette grande diversité de molécules organiques, donc basées sur le carbone. On a même vu la glycine, qui est le plus simple des acides aminés, et donc qui relance toutes ces... qui contribue, ces questions sont jamais arrêtées, au fait que les comètes ont pu apporter des ingrédients qui ont contribué à l'apparition de la vie. Et pour ce qui me concerne, sur l'instrument sur lequel j'ai travaillé avec mes collègues, en fait, on s'attendait à avoir aussi toute une multitude de molécules plus grosses. Et on s'attendait à ce que nos mesures soient très dures à interpréter, parce qu'on en aurait une quantité considérable. Et en fait, on a mis beaucoup de temps à se rendre compte qu'en fait, on ne voit que des très grosses molécules, des choses qu'on appelle des macromolécules, tellement grosses et tellement complexes qu'on peut pas leur donner vraiment de formule ni de nom. Et moi, ce qui m'étonne beaucoup, et j'ai pas encore de réponse, et pour l'instant, je pense que personne n'en a, c'est qu'on a une espèce de fossé entre la multitude de petites molécules qu'on observe dans la phase gazeuse et cette phase extrêmement complexe de matière carbonée qui a l'air d'être là en abondance donc on s'attendait à ce genre de choses. Il manque une partie là, par contre c'est pas une pièce en plus, c'est une pièce en moins, mais cette pièce en moins et pose des questions. Pourquoi on a cette pièce en moins parce qu'on n'est pas capable de les voir, parce qu'on finalement les verra dans 3 ans quand on traitera mieux les spectres, ou peut-être qu'elle n'est pas là et ça nous apprendra des choses, énormément de choses sur notre histoire au sens système solaire.
Philippe Godon, pour conclure, quel est pour vous l'apport scientifique majeur de cette mission Rosetta? Qu'est-ce qu'on a appris de plus important selon vous?
Bien, je pense que ça conforte vraiment la théorie qu'on avait de formation du système solaire et des premiers corps, puisque ces comètes sont les briques de base qui ont permis de fabriquer les planètes. Donc ça, c'est bien conforté, mais on a quelques surprises. Par exemple, on a trouvé de l'oxygène moléculaire en quantité, on ne sait pas si c'était de l'oxygène qui se trouvait dans les nuages moléculaires ou pas. Est-ce que ça n'a pas été formé un peu dans la comète? On n'en sait rien. Il n'y a pas de magnétisme mesuré sur la comète. On pensait que le champ magnétique solaire avait pu jouer dans le démarrage de formation des corps, etc. Donc, à 95%, je dirais, ça conforte vraiment la théorie qu'on avait. Mmh. Et il y a quelques surprises. Il va falloir sûrement un petit peu de temps avant de bien comprendre la globalité de la comète Chury.
Allez, Philippe, pour finir.
Et une dernière chose, c'est que en observant la comète pendant 2 ans, on a vu fonctionner une comète, on a vu comment elle dégaze, on a vu comment elle a été faite, on a vu qu'il n'y avait pas tant d'eau que ça en surface. Ouais. On l'a cherché beaucoup, cette eau glacée, on ne l'a trouvée pas, mais elle y est. Voilà, on a appris comment fonctionne une comète.
Philippe Godon, on aura une pensée pour toutes vos équipes. Hein, Hervé Cotin, même chose. Hein. C'est la fin d'une grande histoire quand même demain. Hein.
Oui, ça c'est... Nous, je vais vous dire, à Toulouse, nous nous occupions surtout de Philae. Et on avait un peu commencé à faire notre deuil. Vous savez qu'on avait abandonné toute possibilité que Philae refonctionne à partir de janvier 2016.
Oui, oui.
Donc voilà, ça a permis de prendre de la distance. Oui. Malgré tout, on baignait dans le projet Rosetta. Et là, c'est le projet qui va s'arrêter d'un coup.
Oui. Et ce sera donc demain. On pourra vivre.
Ça va être difficile.
Oui, on le sent bien. Et ce sera donc à la Cité des Sciences, à la Cité de l'Espace pour le vivre via le web également pour ceux qui n'auront pas la chance d'être à Toulouse ou à Paris. Merci beaucoup, Philippe Godon. Merci aux équipes de France Bleu à Toulouse. Hervé Cotin et Philippe Hénarejos, merci infiniment. Et puis un dossier évidemment consacré à Rosetta sur Ciel et Espace, évidemment, sur le site internet.
Absolument. On a même mis une BD pour réviser toute la mission. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a appris?
Depuis 2004. Merci beaucoup à tous.
France Inter, santé polémique avec le docteur Dominique Dupagne.
Attention, je vais piquer.
Il pique pour nous tous les jeudis. Bonjour Dominique.
Bonjour Mathieu.
Vous nous parlez aujourd'hui des chiens renifleurs de cancer.
Oui, oui, après les renifleuses de comètes, maintenant on a les chiens, et plus précisément Thor et Nikios, deux malinois qui sont en train d'être dressés pour dépister les cancers du sein.
C'est pas vraiment nouveau ça. Hein.
Non, c'est même une très vieille histoire qui faisait intervenir l'odorat humain. De tout temps, une odeur spécifique a été associée au diagnostic de certaines maladies, notamment du foie. Et je passe sur le diagnostic du diabète en goûtant l'urine sucrée des malades.
C'est très ragoûtant.
Heureusement, vive le progrès, c'est fini ça. Mais bon, notre odorat est inexistant à côté de celui du chien, d'où l'idée d'utiliser leur capacité olfactive pour détecter des maladies et notamment des cancers débutants. Des expériences prometteuses ont en effet déjà été publiées, notamment avec l'urine pour le cancer de la prostate ou l'haleine pour le cancer du poumon. Mais elles ont mené à des impasses, la voie suivie n'était pas la bonne.
C'est-à-dire?
Eh bien, on a voulu utiliser ces chiens dressés pour identifier les molécules odorantes spécifiques du cancer. L'objectif, à terme, c'était de remplacer ces chiens par des chromatographes, c'est-à-dire des machines capables de doser ces molécules dans le sang ou les urines. Mais les scientifiques se sont cassés le nez, si je puis dire, sur le big data canin.
Alors, vous pouvez nous en dire un peu plus, Dominique?
Eh bien, ce qu'ont montré les premières tentatives, c'est que l'odorat du chien ne se résume pas à la détection ni à la quantification de quelques molécules. Son merveilleux système olfactif analyse des centaines de milliers de molécules odorantes et son diagnostic se fonde sur l'analyse simultanée de millions de données par les zones spécifiques de son cerveau. C'est exactement ce qu'on appelle du big data lorsqu'il s'agit de traiter informatiquement des masses énormes de données. Or, la science s'est révélée incapable de fabriquer des machines atteignant le niveau de complexité et de performance du couple nez-cerveau du chien. C'est un peu comme si on avait voulu fabriquer un avion de chasse aussi agile et furtif qu'un moineau. Et c'est là qu'intervient le projet CADOG, né de la rencontre d'une infirmière de l'Institut Curie et de dresseurs de chiens spécialisés.
CADOG avec un K comme cancer.
Oui, c'est ça.
D'accord.
Exactement.
Okay.
Le projet CADOG consiste à utiliser le chien non comme un modèle à copier, mais comme un auxiliaire médical à part entière. Comme expliqué sur le site cadog.fr, il s'agit de former des chiens au dépistage du cancer du sein en leur faisant faisant sentir une compresse gardée une nuit au contact de la peau du sein. C'est un financement participatif qui a permis de recueillir 100 000 euros et de débuter il y a quelques semaines le dressage de deux chiens malinois. Je trouve cette expérience très excitante. Comme le souligne Isabelle Fromentin à l'origine du projet, cette technique ne coûte que des chiens et du temps et elle pourrait révolutionner le dépistage dans les pays où les technologies modernes sont trop coûteuses. Et dans mes rêves, c'est aussi l'histoire d'une technique qui permettrait enfin d'identifier parmi des petits nodules cancéreux, détectés habituellement par mammographie, ceux qui sont vraiment menaçants et de ne pas exposer des milliers de femmes à un surtraitement préoccupant. Mmh. On aura bientôt l'occasion d'ailleurs d'en reparler avec le lancement d'Octobre Rose, la grande kermesse du cancer du sein.
Oh, ça sent la chronique polémique à plein nez, ça, Dominique. Hein.
Absolument.
Et pas besoin d'un odorat de chien pour le sentir.
Bravo. À jeudi prochain.
Allez, à jeudi prochain. Bonjour Fabrice Drouel.
Bonjour Mathieu Vidard.
Affaires sensibles dans un instant.
Aujourd'hui, la catastrophe de Furiani le 5 mai 92, lorsqu'une tribune s'est effondrée, a fait 18 morts, rendez-vous compte, 18 morts et plus de 2000 blessés. Parmi les blessés, il y avait Jacques Vendroux, le directeur actuel des sports de Radio France. Ça l'a beaucoup marqué, il sera notre invité aujourd'hui.
À tout à l'heure, après les infos donc.